Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente La roue du temps, tome 3. Le dragon réincarné. De Robert Jordan. Traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet. Lu par Arnaud Loridan. Et les chemins qu'il suivra seront innombrables, comme les peuples qui connaîtront son nom, car il naîtra plusieurs fois en notre sein, sous une multitude d'identités, puisqu'il a toujours été et sera à jamais dans l'infini du temps. Comme le soc acéré de la charrue, son avènement retournera la terre, nous arrachant au sillon où nous reposions dans notre silence. Celui qui brisera tous les liens, celui qui forgera toutes les chaînes. Le père de nos avenirs, le destructeur de la destinée. Extrait de Commentaire sur les prophéties du dragon. De Jurith Dorine, main droite de la reine d'Almorène, 742 AD, troisième âge. Prologue. La forteresse de la lumière. Pedron Nihal balaya du regard sa salle d'audience privée, mais ses yeux noirs, voilés par l'âge et de sinistres pensées, ne virent rien. Sur les lambris sombres qui recouvraient les murs de pierre, très épais même au cœur de la forteresse, les étendards des ennemis de jeunesse du seigneur général finissaient de perdre leur couleur. Massif et doté d'un haut dossier, à la manière d'un trône, l'unique siège présent dans la pièce restait invisible pour Nihal, au même titre que les quelques tables qui complétaient le mobilier. Et il en allait de même pour l'homme en cape blanche, agenouillé sur le grand soleil doré incrusté dans les lattes de bois du parquet. Malgré sa ferveur difficilement contenue, l'image de ce visiteur ne parvenait pas à se graver dans l'esprit de Nihal. Pourtant, l'homme n'était pas du genre qu'on pouvait aisément prendre à la légère. Avant de se présenter devant le seigneur général, Jarrett Billard avait eu le temps de faire un peu de toilette. Mais son casque et son plastron restaient souillés par la poussière de la route et ternis par de trop longues années de service. Sur le visage émacié du fils de la lumière, deux petits yeux noirs enfoncés dans leurs orbites brillaient fébrilement. Comme il se devait en présence de Nihal, Billard ne portait pas son épée. Ça ne l'empêchait pas d'être tendu à craquer, tel un chien avide de violence qui attend d'être libéré de sa laisse. Placés à chaque extrémité de la salle, deux cheminées unissaient leurs efforts pour combattre les rigueurs de l'hiver finissant. Fidèle reflet de son occupant, la pièce était fonctionnelle, sans rien qui sortît de l'ordinaire. Le fief d'un militaire, ni plus ni moins, si on acceptait l'extravagant soleil. Mais si le mobilier était choisi par chaque homme qui accédait au poste de seigneur général des Fils de la Lumière, l'astre du jour, composé de pièces d'or, avait été usé jusqu'à la corde par les semelles d'une légion de pétitionnaires, avant d'être remplacé et de nouveau piétiné jusqu'à ce que mort s'en suive. Assez d'or pour acheter un domaine en Amadicia et s'offrir le titre de noblesse qui allait avec. Depuis 10 ans qu'il foulait allègrement au pied cette fortune, Nihal ne lui avait pas accordé plus d'attention qu'au soleil brodé sur la poitrine de sa tunique blanche. Pour lui, les biens de ce monde n'avaient aucun intérêt. Après avoir fait le tour de la salle sans rien voir, les yeux de Nihal revinrent se poser sur la table la plus proche de lui. Au milieu des cartes, des rapports et de diverses missives, 3 dessins sommairement enroulés attirèrent irrésistiblement le regard du seigneur général. À contre-cœur, il en prit un au hasard. Choisir était inutile, puisque tous les 3, sans être de la même main, représentaient une scène identique. Si la peau de Nihal, fine comme du très vieux parchemin, paraissait devoir craquer à tout instant sous la pression d'un corps qui n'était plus qu'un assemblage d'os et de tendons, rien en lui n'évoquait la fragilité. Nul n'avait jamais atteint son poste avant d'avoir les cheveux blancs, et tous ses prédécesseurs étaient au moins aussi durs que la pierre du dôme de la vérité. Si fort qu'il fût, Nihal ne put refuser de voir telle qu'elle était la main tavelée par les ans qui tenaient le dessin. Le temps pressait, ou plutôt, il était pressé par le temps. Le délai qui lui restait devait suffire. En tout cas, il ferait tout pour ça. Le vieil homme déroula à demi la feuille de parchemin, juste ce qu'il fallait pour découvrir le visage qui l'intéressait. Après un long séjour dans des sacoches de sel, la craie était un peu effacée, mais le personnage restait reconnaissable. Un jeune homme aux yeux gris et aux cheveux cuivrés. Très grand, semblait-il, mais ça pouvait être une fausse impression. Ses yeux et ses cheveux exceptés, il serait passé inaperçu dans n'importe quelle ville.
« Et ce garçon prétend être le dragon réincarné ?»
murmura Nial. Le dragon. Un nom qui faisait frissonner le seigneur général, accentuant les rigueurs de l'hiver et les misères de l'âge. Le surnom de Loustérine Telamon, lorsqu'il avait condamné à la folie et à la mort tout homme en mesure de canaliser le pouvoir, et ce pour les siècles des siècles. 3000 ans s'étaient écoulés depuis que l'arrogance des Aes Sedai et la guerre des ténèbres avaient provoqué la fin de l'âge des légendes. 30 siècles, oui, mais les prophéties et les fables alimentaient la mémoire des humains. Pour l'essentiel en tout cas, même si beaucoup de détails étaient à jamais perdus. Loustérine, fléau de sa lignée. Le responsable de la dislocation du monde, un désastre durant lequel des fous capables de canaliser le pouvoir avaient rasé des montagnes et fait sombrer dans les eaux d'antiques pays. Alors que la face même de la terre était altérée, toutes les créatures survivantes avaient fui comme des bêtes sauvages pourchassées par un incendie. L'horreur avait duré jusqu'à la mort de l'ultime Aes Sedai mâle, condamnant ce qui restait de l'humanité à reconstruire sur des ruines, quand il en restait, ce qui n'était pas toujours le cas. Au fil des siècles, ces événements étaient devenus de sinistres histoires que les mères racontaient au garnement pour les effrayer. Mais les prophéties affirmaient que le dragon se réincarnerait un jour. Pensant à tort que Nial lui avait posé la question, Biar posa ses mots avant de répondre.
« Oui, seigneur général, c'est lui. Et ce faux dragon est à l'origine d'une démence collective qui dépasse les exploits de tous ses prédécesseurs. » Des milliers de gens lui ont juré allégeance. Déjà en conflit l'un contre l'autre, le Tarabon et l'Arad Doman sont dévastés par la guerre civile. On se bat partout dans la plaine d'Almoth et sur la pointe de Toman. Des Tarabonais contre des Domani. Des Domani et des Tarabonais contre des suppôts des ténèbres ralliés aux dragons. Une boucherie, jusqu'à ce que l'hiver vienne refroidir les ardeurs des combattants. Seigneur général, je n'ai jamais vu un phénomène se répandre si rapidement, comme quand on jette une lampe à huile dans une grange à foin. Avec la neige, l'incendie semble étouffé, mais au printemps, il reprendra avec encore plus de vigueur. Nial leva un index pour interrompre l'officier. Par 2 fois déjà, il avait laissé Biar lui raconter son histoire d'une voix vibrante de colère et de haine. Grâce à d'autres sources, le seigneur général connaissait déjà une bonne partie de ces faits, et sur certains points, il en savait bien plus long que Biar. Pourtant, à chaque audition, il avait eu du mal à cacher sa stupéfaction.
« Jofram, Bornald et 1 millier de fils ont péri, et les Aes Sedai en sont responsables. Tu es sûr de ce que tu avances, fils de la lumière, Biar ?»«
Sûr et certain, seigneur général. Après une escarmouche sur la route de Falm, j'ai vu les cadavres de 2 sorcières de Tarvalon. » Nous avions fini par les cribler de flèches, mais non sans laisser 50 hommes sur le carreau.
Il s'agissait d'Aes Sedai, tu n'as pas le moindre doute.
Seigneur, le sol s'est ouvert sous nos pieds, et des éclairs se sont abattus sur nous alors qu'il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Quelle autre explication pourrait-il y avoir?
Jared Biar n'ayant aucune imagination, on ne pouvait le soupçonner d'affabuler. Pour lui, la mort faisait partie du quotidien d'un soldat, et la manière dont elle venait n'importait pas vraiment. Sauf quand ça sortait pour de bon de l'ordinaire. Nial hocha sombrement la tête. Depuis la dislocation du monde, il n'existait plus d'Aes Sedai mâle, mais les femmes qui revendiquaient désormais le titre n'avaient rien à envier à leurs confrères. Bien entendu, elles prêtaient les 3 serments, jurant de dire exclusivement la vérité, de ne fabriquer aucune arme pouvant servir à un homme pour en tuer un autre, et de ne jamais utiliser le pouvoir à des fins guerrières, sauf contre les suppôts et les créatures des ténèbres. Désormais, la supercherie était éventée, les serments se révélant d'ignobles mensonges. Selon Nial, nul ne pouvait aspirer à tant de puissance sans avoir l'intention de défier un jour le Créateur, donc de se mettre au service du ténébreux.
« Et tu ne sais rien de ceux qui ont conquis Falm et massacré la moitié d'une de mes légions ?»«
Le seigneur capitaine Bornald m'a dit qu'ils se nommaient eux-mêmes les Séanchaniens. » Un ramassis de suppôts, selon lui. Même s'il n'a pas survécu, sa charge héroïque les a mis en déroute. Seigneur général, j'ai parlé à des gens qui fuyaient la cité. Tous étaient d'accord sur un point. Débordés par le seigneur Bornald et ses hommes, les envahisseurs ont fini par fuir.
Une débandade, ni plus ni moins.
Nial soupira discrètement. Dans ses deux précédents récits, Biard avait utilisé les mêmes mots, à quelques rares nuances près.
Un bon soldat, comme aimait à le dire Jofram Bornald, mais mal préparé à penser par lui-même.
Seigneur général, mon supérieur m'a pour de bon demandé d'assister de loin à la bataille. J'avais mission de vous faire un rapport et de raconter au seigneur Dane comment était mort son père.
Oui, oui, bien sûr.
Souffla Nial, agacé. Il dévisagea un moment l'officier au visage émacié et ajouta.
Personne ne met en doute ton courage et ton honnêteté, fils de la lumière. Livrer une bataille sans espoir est tout à fait dans le style de Jofram Bornald. Mais pas dans le tien, mon pauvre ami. Parce que tu manques beaucoup trop d'imagination pour ça.
Jugeant qu'il n'avait plus rien à tirer de l'officier, Nial lui fit signe de se relever.
Tu as très bien agi, fils de la lumière Biard. Je t'autorise à aller voir Dane Bornald afin de lui raconter la mort de son père. Il doit être avec Eamon Valda dans les environs de Tarvalon. Tu peux partir quand ça te chantera.
Merci, seigneur général,
dit Biard. À peine redressé, il se fendit d'une profonde révérence.
Mais je dois vous dire, seigneur, eh bien, nous avons été trahis.
Par le suppôt que tu détestes tant, fils de la lumière Biard.
Nial ne put dissimuler totalement son agacement. Les cendres d'un plan patiemment ourdi gisaient auprès des dépouilles de 1000 valeureux guerriers, et ce fichu Biard n'avait qu'un seul nom à la bouche.
Le jeune costaud que tu as vu deux fois, si je ne m'abuse. Le fameux Perrine de Deux-Rivières.
Oui, seigneur général. J'ignore les détails, mais je suis sûr qu'il est responsable du désastre. J'en mettrai ma main à couper.
Je verrai ce que je peux faire à son sujet, fils de la lumière Biard.
L'officier fit mine de parler, mais Nial lui intima le silence d'un geste vif.
Tu peux disposer à présent.
L'officier dut capituler. Après un ultime salut, il tourna les talons et s'en fut. Alors que la porte se refermait sur son visiteur, Pedron Nial se laissa tomber dans son grand fauteuil. Pourquoi Biard haïssait-il Perrine à ce point? Les suppôts étant légion, pour quelle raison gaspillait-il ainsi son énergie? Au sommet de la société comme au plus bas de l'échelle, des traîtres à l'humanité, dissimulés derrière une courtoisie de façade et des sourires chaleureux, se dévouaient corps et âme aux ténébreux. Quelle différence pouvait faire un nom de plus sur cette longue liste? En quête d'un peu de confort pour ses vieux os, Nial changea de position sur son siège. Pas pour la première fois, loin de là, il songea vaguement qu'un coussin ne serait pas du luxe. Comme toujours, il repoussa cette idée. Alors que le monde menaçait de basculer dans le chaos, il n'avait aucune intention de faire des concessions à l'âge. Revenant à des préoccupations plus pressantes, il récapitula mentalement tous les augures qui annonçaient un désastre. Le conflit entre le Tarabone et la Raddomane, la guerre civile qui faisait rage aux Caïriennes, la poussée de fièvre martiale que subissaient Théar et Liliane, de vieux ennemis s'il en était. Ces divers affrontements ne signifiaient peut-être rien pris individuellement. Après tout, les hommes étaient belliqueux par nature. Mais ils se présentaient tous en même temps, et ça n'avait rien d'habituel. De plus, si un faux dragon sévissait dans la plaine d'Almoth, un autre faisait des ravages aux Saldaea, et un troisième se déchaînait à Théar. Trois imposteurs en même temps.
« Car ce sont tous des imposteurs, n'est-ce pas? Il faut qu'il en soit ainsi. »
Une multitude de détails, voire de rumeurs, sans importance tant qu'on ne les prenait pas ensemble. Par exemple, on signalait des Aiels aussi loin à l'ouest que sur les territoires du Murandi et du Kandor. Deux ou trois individus, jamais plus que ça. Mais en binôme ou par milliers, les Aiels n'étaient sortis de leur désert qu'en une seule occasion depuis la dislocation du monde. Une unique occurrence que nul n'était prêt d'oublier, cela dit. Dans le même ordre d'idées, les Ataan Miere, autrement appelés le peuple de la mer, semblaient se détourner du commerce pour guetter des signes et des augures. Sans daigner préciser ce qu'ils attendaient, ils naviguaient dans des bateaux aux cales à moitié remplis, quand elles n'étaient pas tout à fait vides. Autre indice qui ne trompait pas, Liliane avait pour la première fois depuis 4 siècles lancé la grande quête du corps. Des centaines de quêteurs étaient partis à la recherche du corps de Valère, un instrument légendaire censé, selon les prophéties, réveiller les héros morts afin qu'ils participent à Tarmon Gaidon, l'ultime bataille contre les ténèbres. Et selon certaines rumeurs, les Augiers, un peuple si refermé sur lui-même que bien des gens doutaient de son existence, organisaient des conciliabules entre leurs différents sanctuaires pourtant dispersés aux huit coins du monde. Il y avait plus parlant encore, en tout cas aux yeux de Nial. Les Aes Sedai étaient sorties de l'ombre. D'après ce qu'on disait, elles avaient envoyé des sœurs aux Saldaea afin d'affronter le faux dragon Mazrim Taïm. Si peu fréquent que ce fût pour un homme, Taïm était capable de canaliser le pouvoir de l'unique. Cela suffisait à inspirer à son sujet à la fois la peur et le mépris. De l'avis presque général, un homme pareil ne pouvait pas être vaincu sans l'aide des Aes Sedai. Accepter leur intervention valait quand même mieux que de subir d'indicibles horreurs lorsque le faux dragon perdrait la raison. Cela dit, Tarvalon semblait avoir envoyé des sœurs soutenir l'autre imposteur qui sévissait à Falm. Aucune autre interprétation ne collait avec les faits. Le schéma qui prenait forme devant les yeux de Nial lui glaçait jusqu'à la moelle des os. Le chaos se répandait et des événements jusque-là rarissimes se multipliaient. Le monde entier était en ébullition, comme si quelque chose se préparait. Et pour le seigneur général, la nature de ce quelque chose ne faisait pas de doute. L'ultime bataille était pour très bientôt. Tous les plans de Nial s'en trouvaient réduits à néant. Des plans qui auraient pourtant dû, en théorie, inscrire son nom en lettres d'or dans la glorieuse histoire des Fils de la Lumière. Mais les périodes troubles comblaient souvent de bienfaits les opportunistes, et le vieil homme avait ourdi de nouveaux plans, visant des objectifs différents. De quoi le satisfaire s'il conservait assez de force et de volonté pour mener à bien ses grands projets.
« Lumière, prêtez-moi assez de vie pour réussir. »
Un coup discret, à la porte de la salle, tira Nial de sa sombre méditation.
« Entrez !»
lança-t-il. Un serviteur en livrée blanc et jaune pénétra dans la pièce et se fendit d'une révérence. Les yeux rivés sur le sol, il annonça que Jaikim Caridin, initié de la lumière et inquisiteur de la main de la lumière, avait répondu à la convocation du seigneur général. Sans laisser le temps à Nial de parler, Caridin vint se camper derrière le serviteur, que son maître congédia d'un geste distrait. Avant que la porte se fût refermée sur le domestique, Caridin mit un genou en terre, faisant onduler comme une traîne sa cape blanche. Sous le soleil qui ornait le côté gauche du vêtement, un bâton d'auberger rouge sang signalait son appartenance à la main de la lumière, un ordre dont les membres étaient surnommés les confesseurs, un nom qu'il valait mieux éviter d'utiliser en leur présence.
« Pour répondre à ta convocation, seigneur général, je suis revenu à la hâte du Tarabon. »
Nial étudia un moment son interlocuteur. De haute taille, Caridin n'était plus un jeune homme, comme en témoignait ses tempes grisonnantes. Mais il gardait une belle prestance et semblait toujours plus dur que l'acier le mieux trempé. Comme à l'accoutumée, ses yeux sombres enfoncés dans leurs orbites exprimaient une profonde sagesse, à croire qu'il n'était plus dupe de rien depuis bien longtemps, et ils ne sillèrent pas quand le regard pénétrant de Nial les sonda. Très peu d'hommes avaient bonne conscience au point de ne pas tressaillir sous cet examen. À moins que Caridin ait simplement des nerfs d'acier. Car enfin, devoir quitter ses troupes et rentrer d'urgence à Amador, sans un commencement d'explication, n'arrivait pas tous les jours. Mais Jaikim Caridin avait la réputation d'être plus patient et inébranlable qu'un rocher.
« Lève-toi, fils de la lumière, Caridin !»
Alors que le confesseur obéissait, Nial passa tout de suite à l'offensive.
« J'ai des nouvelles de Falm. Des nouvelles inquiétantes, dois-je préciser ?»
Caridin tira sur les plis de sa cape, les rectifiant, puis il répondit d'un ton presque nonchalant, comme s'il s'était adressé à un égal, pas au chef qu'il avait juré de servir au péril de sa vie.
« Seigneur général, tu fais allusion aux nouvelles apportées par le fils de la lumière Biar, ancien second du seigneur capitaine Bornald ?»
Nial cligna imperceptiblement de l'œil gauche, un signe annonciateur de colère chez lui. En théorie, trois hommes seulement savaient que Biar était à Amador, et Nial aurait dû être le seul à pouvoir dire d'où il venait.
« Ne joue pas sans cesse au plus fin avec moi, Caridin. Ta volonté de tout savoir risque de te conduire un jour entre les mains de tes propres confesseurs. »
Si le nom employé lui déplut, l'inquisiteur ne le montra pas. N'était sa façon soudaine de serrer les lèvres, comme s'il voulait empêcher quelques mots de s'en échapper.
« Seigneur général, la main cherche la vérité en toutes circonstances, afin de servir la lumière. »
servir la lumière, pas les fils de la lumière. »
Tous les membres de l'ordre servaient la lumière, mais on pouvait se demander si les confesseurs avaient encore conscience d'appartenir à une organisation.
« Et quelle vérité m'apportes-tu au sujet de ce qui se passe à Falm ?»«
Des suppôts des ténèbres, seigneur général. »
« Des suppôts.
Nial eut un rire sans joie.
« Il y a quelques semaines, tu m'annonçais que Jofram Bornald servait le ténébreux parce qu'il t'avait désobéi, conduisant une bonne partie de ses forces sur la pointe de Thoman. Veux-tu maintenant me faire gober que ce même Bornald, un suppôt, a lancé ses hommes à l'assaut d'autres suppôts des ténèbres, saignant ainsi leur arrêt de mort ?»«
Nous ne saurons jamais si c'était un suppôt. »
lâcha Caridine.
Puisqu'il est mort avant d'avoir été soumis à la question. Les desseins des ténèbres sont souvent impénétrables. Pour ceux qui marchent dans la lumière, ils peuvent sembler absurdes. Mais les conquérants de Falm étaient des suppôts, j'en suis certain. Des suppôts et des Aes Sedai se sont unis pour soutenir un faux dragon. Si j'ai une certitude, seigneur général, c'est que le pouvoir de l'Unique est responsable du massacre de Bornald et de ses hommes. Pareillement, c'est à lui qu'on doit la destruction des troupes envoyées par le Tarabon et la Rat d'Oman pour combattre les envahisseurs à Falm.
« Que fais-tu de l'hypothèse la plus répandue, selon laquelle les conquérants auraient traversé l'océan d'Arit ?»
Caridine secoua la tête.
« Seigneur général, les rumeurs vont bon train, voilà tout. Selon certaines d'entre elles, ces envahisseurs seraient les descendants des armées qu'Aile de Faucon chargea de traverser l'océan d'Arit il y a 1000 ans. Des descendants qui viendraient réclamer l'empire de leurs ancêtres. Sais-tu que des fous prétendent avoir vu Arthur à Falm, accompagné par la moitié de nos héros légendaires qui plus est ? Seigneur, du Tarabon au Saldaea, l'Ouest est en ébullition. Et de nouvelles fables, telles des bulles, éclatent chaque jour à la surface. Chacune se révèle plus inepte que la précédente, bien entendu. Les Séanchaniens sont simplement l'invention d'une bande de suppôts réunis pour soutenir un faux dragon. Mais avec l'aide des Aes Sedai cette fois.
« Quelle preuve as-tu de ce que tu avances ?»
demanda Nial, sans faire mystère de ses doutes.
« Aurais-tu fait des prisonniers ?»
« Non, seigneur général. Comme le fils de la lumière Biar a dû te le dire, la charge de Bornald fut assez violente pour forcer l'ennemi à se débander. Quant aux gens que nous avons interrogés, ils n'auraient pour rien au monde admis qu'ils s'étaient ralliés à un faux dragon. En guise de preuve, j'ai une démonstration en deux parties, si tu veux bien m'écouter, seigneur général. »
Nial fit signe à son interlocuteur de continuer.
La première partie repose sur la négation. Peu de navires ont tenté de traverser l'océan d'Arit, et la plupart ne sont jamais revenus. Les rares qui se sont remontrés avaient rebroussé chemin avant d'être à court de vivres et d'eau potable. Malgré son goût du commerce, le peuple de la mer lui-même ne s'attaque pas à cet océan. Et il s'aventure pourtant au-delà du désert des Aiel. Seigneur général, s'il y a un continent de l'autre côté de l'Arit, il est bien trop loin pour que nous puissions l'atteindre. Faire traverser une armée d'invasion est impossible. Autant essayer de la faire voler.
Je veux bien te suivre sur ce point,
souffla Nial.
Ton raisonnement se tient, même s'il n'est pas concluant. Ta seconde partie, à présent.
Seigneur général, un grand nombre de sujets, interrogés par nos soins, ont affirmé que des monstres combattaient aux côtés des suppôts. Même sous une pression maximale, ces témoins ne se sont pas rétractés. Il devait donc s'agir de Trollocs et d'autres créatures des ténèbres. Une meute sortie on ne sait comment de la flétrissure.
Caridine écarta théâtralement les bras.
De nos jours, la plupart des gens pensent que les Trollocs sont une invention de voyageurs friands de beaux mensonges. Quelques esprits éclairés reconnaissent leur existence, mais en ayant la certitude que ces sbires du ténébreux furent tous tués durant les guerres des Trollocs. Comment s'étonner qu'on parle de monstres sans plus de précision ni de détails ?
Oui, tu pourrais avoir raison, fils de la lumière Caridine. J'ai bien dit « pourrais ».
Pas question de capituler, Même signal partageait en fait cette analyse.
Mais qu'en est-il de lui ?
Le seigneur général désigna les dessins enroulés.
Cet imposteur est-il dangereux ? Sait-il canaliser le pouvoir ?
Connaissant Caridine, Nial ne doutait pas un instant qu'il avait dans ses bagages des copies de ses documents. L'inquisiteur ne s'y a même pas, comme si tout cela allait de soi.
« Peut-être bien que oui, seigneur général, et peut-être bien que non. Si ça leur chantait, les Aes Sedai pourraient nous faire gober qu'un chat est capable de canaliser. Quant à savoir si ce faux dragon est dangereux, eh bien, avant d'être vaincu, tout imposteur est menaçant. Étant soutenu par Tar Valon, celui dont nous parlons l'est 10 fois plus que les autres. Mais il l'est moins aujourd'hui qu'il le sera dans 6 mois si on le laisse faire. Les prisonniers que j'ai interrogés ne l'ont jamais vu, et ils ignorent où il peut être. Ses forces sont dispersées, probablement jamais plus de 200 fidèles au même endroit. S'ils n'étaient pas occupés à s'entretuer, les Tarabonais et les Domani, ensemble ou séparément, pourraient les écrabouiller sans peine.
Mais un faux dragon ne suffit pas à leur faire oublier 4 siècles de disputes autour de la plaine d'Almoth. Comme si l'un de ces deux pays était assez puissant pour tenir ce territoire s'il le possédait.
Caridine ne bronchant toujours pas, Nial se demanda comment il pouvait afficher un calme pareil.
« Mais tu vas bientôt t'énerver, confesseur. »«
Ses forces ne comptent pas, seigneur général. L'hiver les confine dans leur campement, n'étaient quelques raids et escarmouches sporadiques. Quand le temps se réchauffera assez pour que les mouvements de troupes soient possibles, eh bien, Bornald a perdu la moitié de sa légion sur la pointe d'Ottoman. Avec l'autre moitié, je traquerai le faux dragon jusqu'à sa mise à mort. Un cadavre n'est plus dangereux pour personne.
Et si tu affrontes les adversaires supposés de Bornald, des Aes Sedai qui utilisent le pouvoir pour tuer?
Leur sorcellerie ne les protège pas des flèches, ni d'un couteau qui frappe au cœur de la nuit. Ces femmes meurent comme tout le monde.
Caridine sourit.
Je te promets un succès total avant l'été, seigneur général.
Nial acquiesça. L'inquisiteur était en confiance désormais. S'il y en avait eu, les questions délicates auraient déjà été posées.
Caridine, je suis un fin tacticien. Tu aurais dû t'en souvenir. Pourquoi n'as-tu pas conduit tes propres forces à Falm? La pointe de Thoman étant infestée de suppôts, et Falm leur appartenant, pourquoi n'as-tu pas tenté d'arrêter Bornald ?
Caridine scia, mais sa voix ne trembla pas.
Au début, il n'y avait que des rumeurs, si folles que personne n'y croyait. Quand j'ai découvert la vérité, Bornald avait déjà lancé sa charge. Il n'avait pas survécu et les suppôts s'étaient débandés. Ma mission, ne l'oublions pas, était de restaurer le règne de la lumière sur la plaine d'Almoth. Je ne pouvais pas m'en détourner pour courir après des chimères.
« Ta mission !»
s'écria Nial. Il se leva et le confesseur, bien que le dominant d'une bonne tête, recula d'instinct.
« Ta mission ! Tu devais conquérir la plaine d'Almoth. Un seau vide qui n'appartenait à personne, malgré un concert de rhodomontade, et qu'il ne tenait qu'à toi de remplir. Le royaume d'Almoth se serait relevé de ses cendres sous la direction des Fils de la Lumière, sans devoir faire mine de se soumettre à quelque souverain abruti. Entre l'Amadicia et l'Almoth, le Tarabon aurait été pris comme dans un étau. Dans 5 ans, nous aurions eu autant d'influence qu'ici en Amadicia. Et tu as tout gâché, Caridine.
Le sourire du confesseur s'effaça enfin.
Seigneur général, comment aurais-je pu prévoir ce qui s'est passé? Un autre faux dragon? Une véritable guerre entre le Tarabon et la Rade d'Oman, après des siècles de querelles sans conséquence. Et pour ne rien arranger, les Aes Sedai qui révèlent leur vraie nature après 3000 ans de mascarade. Même ainsi, rien n'est perdu, je te l'assure. Je peux localiser et abattre le faux dragon avant que ses partisans se soient rassemblés. Quant aux Tarabonais et aux Domani, il suffira de les laisser s'épuiser les uns contre les autres, puis de les attaquer et...
Non !
Cria Nial.
Nous en avons terminé avec tes plans, Caridine. Je me demande si je ne devrais pas te confier sur le champ aux bons soins de tes confesseurs. Le haut inquisiteur n'y verrait pas d'objection,
car il donnerait cher pour avoir sous la main un coupable idéal. Il n'aurait pas pris l'initiative de te désigner, mais si je le fais à sa place, je doute qu'il proteste. Quelques jours à subir la question, et tu avoueras n'importe quoi, y compris que tu es un suppôt. En moins d'une semaine, tu serais bon pour la hache du bourreau. »
Nial remarqua que de la sueur perlait sur le front de Caridine.
« Seigneur général, je... Eh bien, tu sembles penser qu'il existe un meilleur plan que le mien. Si tu consens à me mettre dans la confidence, je te servirai aveuglément, comme j'ai juré de le faire. »«
C'est le moment, »
pensa Nial.
« Le moment de jeter les dés. »
Le vieil homme eut la chair de poule. Comme s'il était sur un champ de bataille, s'avisant soudain que tous les hommes qui l'entouraient portaient un uniforme ennemi. Les seigneurs généraux ne finissaient pas la tête sur le billot, mais plus d'un avait connu une mort brutale et inattendue. Très brièvement pleurés, ils étaient promptement remplacés par des hommes aux idées moins dangereuses.
« Fils de la lumière, Caridine, tu feras en sorte que ce faux dragon ne meure pas. Si une Aes Sedai devait tenter de lui nuire au lieu de le soutenir, tu utiliseras ton couteau au cœur de la nuit. »
L'inquisiteur en resta bouche bée, mais il se reprit très vite.
« Tuer une Aes Sedai est une noble mission, mais protéger un faux dragon, en revanche, ce serait une trahison et un blasphème. »
Nial prit une profonde inspiration. S'il s'y prenait mal, le couteau serait pour lui, ça ne faisait aucun doute. Mais il ne pouvait plus reculer.
« Faire ce qui s'impose n'est jamais une trahison. Et pour la bonne cause, tous les blasphèmes sont acceptables. »
Deux phrases qui suffiraient à valoir une condamnation à mort à n'importe qui, Nial le savait.
« Sais-tu comment on peut rapidement rallier une foule à sa cause, Caridine ? Non ? Eh bien, il faut lâcher dans les rues un lion enragé. Quand les gens sont paniqués au point de s'oublier sur eux, il suffit de venir leur dire, très calmement, qu'on va régler le problème. Ensuite, une fois le lion tué, il convient d'ordonner au couard de pendre sa carcasse à un endroit où tout le monde la verra. Avant que les sujets aient eu le temps de réfléchir, il faut leur donner un autre ordre qu'ils s'empresseront d'exécuter. Puis un autre, et encore un autre. Ils obéiront à leur sauveur, parce qu'il n'y a pas de meilleur chef possible. »
Caridine sembla douter de bien avoir compris.
« Seigneur général, tu prévois de tout conquérir ? Pas seulement la plaine d'Almoth, mais aussi le Tarabon et la Raddoman. »
Ce que je prévois ne regarde que moi. Ton devoir est d'obéir, selon le serment que tu as prêté. J'entends que des messagers montés sur des étalons de course partent dès ce soir pour la plaine d'Almoth. Tu es sans nul doute capable de formuler des ordres assez subtilement pour que personne ait de soupçons. Si tu dois traquer et détruire quelqu'un, opte pour les Tarabonais et les Domani. Je détesterais qu'il tue mon lion enragé. Par contre, au nom de la lumière, les forcer à faire la paix semble être un devoir sacré.
Si tu le dis, seigneur général, moi je t'écoute et j'obéis. »
Un ton bien trop conciliant, estima Nial, qui eut un sourire glacial.
Au cas où ta loyauté ne serait pas sans faille, ouvre bien tes oreilles. Si ce faux dragon périt avant que j'en aie donné l'ordre, ou si les sorcières de Tarvalon s'en emparent, on te trouvera raide mort dans ton lit un matin, une dague dans le cœur. Et s'il devait m'arriver un accident, voir si je succombais à l'âge, tu ne me survivrais pas un mois.
Seigneur général, j'ai juré d'obéir et...
« C'est exact. Tu l'as juré. Alors, sois fidèle à ta parole. Et maintenant, retire-toi. »
« Si le seigneur général me l'ordonne. »
Cette fois, la voix du confesseur tremblait un peu. Quand la porte se fut refermée sur son visiteur, Nial se frotta les mains, car il mourait de froid. Les dés étaient jetés, et nul ne savait quelle face serait visible quand il s'immobiliserait. L'ultime bataille approchait pour de bon. Mais il ne s'agissait pas de Tarmon Gaidon, tel que le décrivaient les légendes, le ténébreux se libérant pour affronter le dragon réincarné. Non, ce n'était pas ça. Nial en aurait mis sa main au feu. Les Aes Sedai de l'âge des légendes avaient certes foré un trou dans la prison du Père des Mensonges, au cœur du mont Shai'ul Ghul. mais l'oustérine fléau de sa lignée et ses 100 compagnons avaient scellé cet orifice. La riposte du ténébreux avait à tout jamais souillé la moitié masculine de la source authentique, condamnant Térine et ses héros à la folie. Mais un seul Aes Sedai de ce temps-là était capable de miracles que 10 Aes Sedai actuels seraient incapables de réaliser. Les sceaux créés par ces sorciers-là résisteraient à tout. Homme de froide logique, Pedron Nial s'était fait une image réaliste de Tarmon Gaidon. Des hordes de Trollocs déferleraient de la flétrissure, fondant sur le sud, exactement comme lors des guerres des Trollocs 2000 ans plus tôt. Des Myrdral les commanderaient, peut-être en compagnie de seigneurs de la terreur choisis parmi les suppôts des ténèbres. Composés de nations qui ne cessaient de guerroyer les unes contre les autres, l'humanité ne résisterait pas à ce raz-de-marée. Sauf si Pedron Nial l'unissait sous l'étendard glorieux des Fils de la Lumière. Alors de nouvelles légendes naîtraient pour raconter comment il avait remporté l'ultime bataille.
« Mais avant tout, il faut lâcher dans les rues notre lion enragé. »
pensa à haute voix le seigneur général.
« Un lion enragé ?»
répéta une voix dans son dos. Nial se retourna assez vite pour voir un petit homme maigre au gros nez crochu sortir de derrière une des bannières qui tenait lieu de tenture. Avant que le panneau de tissu retombe en place, le vieil homme eut le temps d'apercevoir le panneau de bois qui se refermait déjà.
« Ordeïs, je t'ai montré ce passage secret pour que tu puisses venir me voir discrètement lorsque je te fais mander, pas afin que tu épies mes conversations privées. »
Ordeïs esquissa une révérence tout en traversant la pièce.
« Épier, noble seigneur, je ne me permettrai jamais une telle indélicatesse. Je viens d'arriver et je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre vos derniers mots. Il n'y a rien de plus. »
Un sourire quelque peu moqueur flottait sur les lèvres du petit homme. Mais c'était en permanence l'expression qu'il affichait, même lorsqu'il pensait que personne ne le regardait. Un mois plus tôt, en plein cœur de l'hiver, Ordeïs était arrivé à Amador. Vêtu de haillons et presque mort de froid, il avait réussi l'exploit de convaincre une petite armée de gardes de le laisser accéder à Pedron Nial en personne. Au sujet de la pointe ottomane, Ordeïs semblait connaître des détails qui ne figuraient pas dans les rapports tarabiscotés de Caridin ou dans le récit de Billard. À dire vrai, ces éléments n'étaient contenus dans aucun compte-rendu, ni aucune rumeur qui eût atteint les oreilles du seigneur général. Le nom du petit homme n'était pas authentique, bien entendu. Dans l'ancienne langue, Ordeïs signifiait « absinthe ». Lorsque Nial le lui avait fait remarquer, son visiteur s'en était tiré par une pirouette.
« Aucun être humain ne sait qui il est, et la vie se révèle très amère. »
En plus d'être rusé, Ordeïs ne manquait pas d'intelligence. Grâce à lui, Nial avait pu voir le schéma directeur qui liait entre eux tous ces événements. Le petit homme approcha de la table, s'empara d'un dessin et le déroula assez pour dévoiler le visage du jeune imposteur. Quand ce fut fait, son éternel sourire se transforma en rictus.
« Voir un faux dragon t'incite à ricaner ?»
demanda Nial, toujours furieux qu'Ordeïs se soit introduit chez lui sans qu'il l'ait convoqué.
« Où ça te fiche la trouille ?»«
Un faux dragon ? Oui. » « Bien sûr, ça doit être ça. De qui d'autre pourrait-il s'agir ?»
Ordeïs éclata d'un rire grinçant qui vrilla les nerfs de Nial. Plus d'une fois, le seigneur général s'était demandé si le petit homme n'était pas à demi-fou, au minimum.
« Mais, saint d'esprit ou non, il est intelligent. »« Que veux-tu dire, Ordeïs ? On croirait que tu le connais. »
Le visiteur sursauta, comme s'il avait oublié la présence de son hôte.
« Le connaître ? Pour sûr que je le connais. Il se nomme Rand Altor. Originaire de Deux-Rivières, un territoire perdu du royaume d'Andorre, c'est un suppôt si intimement lié aux ténèbres que vous crieriez grâce avant d'avoir entendu la moitié de ses méfaits. »«
Deux-Rivières. Quelqu'un m'a parlé d'un autre suppôt natif de la région. Un jeune type également. Je trouve étrange qu'un coin si perdu soit un nid de zélateurs du mal. » Mais ils sont partout, en voilà une preuve de plus.
Un autre suppôt, seigneur ? Serait-ce Matrim Cotton ou Perrine Aibara ? Ils ont le même âge que Rand et pas grand-chose à lui envier en matière de malfaisance.
Perrine, c'est le nom qu'on a mentionné devant moi. Trois suppôts, dis-tu ? Rien ne sort jamais de Deux-Rivières à part du tabac et de la laine. C'est le pire coin perdu du monde, d'après ce que je sais.
Dans une ville, les suppôts doivent dissimuler leur véritable nature. Sinon, comment pourraient-ils frayer avec les habitants et tirer les vers du nez des voyageurs de passage ? mais dans des villages isolés où presque personne ne passe jamais, quelle havre de paix pour des serviteurs du mal !»«
D'où connais-tu le nom de trois suppôts issus d'un endroit pareil, Ordeïs ?»«
Tu gardes pour toi bien trop de secrets, absinthe. Et tu sors de tes manches plus de surprises qu'un fichu trouvert. »
Quel homme pourrait clamer haut et fort tout ce qu'il sait, Seigneur ? Avant de se révéler utile, son discours passerait pour du bavardage. Mais je peux vous dire une chose. Randaltor, le dragon, a de très profondes racines dans le territoire de Deux-Rivières.
Le faux dragon !
Ruginial.
Oui, le faux !
Bien entendu, Seigneur, ma langue a fourché.
Nial s'avisa soudain qu'Ordeïs était en train de déchirer le dessin. Même s'il restait de marbre, n'était le rictus déjà mentionné, le petit homme s'acharnait à détruire le parchemin.
« Pas de ça !»
ordonna Nial. Il arracha le dessin à Ordeïs et entreprit de le défroisser.
« J'ai trop peu d'images de cet homme pour autoriser qu'on les détruise !»
Les dégâts étaient considérables. Une déchirure fendant en deux le torse du jeune homme, mais le visage, un pur miracle, n'avait pas du tout souffert.
« Pardonnez-moi, noble seigneur !»
fit Ordeïs en s'inclinant bien bas.
« Mais j'abomine les suppôts des ténèbres. »
Nial étudia le visage dessiné à la craie.
« Randaltor de Deux-Rivières.
Je devrais peut-être songer à m'occuper de ce territoire. Quand la neige ne tombera plus, qui sait ?»«
Comme vous le souhaitez, noble seigneur. »
grinça le petit homme au nez crochu. L'expression de Caridine, tandis qu'il remontait à grandes enjambées les couloirs de la forteresse, n'incita personne à l'aborder. De toute façon, nul ne cherchait la compagnie des confesseurs, même quand ils n'étaient pas d'humeur massacrante. Sur le passage de Caridine, les serviteurs se plaquaient contre les murs comme s'ils voulaient les traverser. Tout aussi peu pressés de frayer avec l'inquisiteur, les fils de la lumière, officiers compris, s'engouffraient dans des couloirs latéraux dès qu'ils l'apercevaient. Ouvrant à la volée la porte de ses appartements, Caridine la claqua derrière lui. Contrairement à ses habitudes, il n'éprouva aucune satisfaction devant les riches tapis du Tarabone et de Théar, pourtant de petites merveilles aux couleurs flamboyantes, le miroir biseauté ilianien et la table aux délicates sculptures dorées à leur fin. Un maître artisan de Lougarde s'était échiné plus d'un an durant sur cet extraordinaire meuble. Et pourtant, Caridine passa à côté comme s'il ne le voyait pas.
« Charbonne !»
appela-t-il. Le valet ne répondit pas à l'appel de son maître. Pourtant, il était censé apprêter les appartements.
« Que la lumière te brûle ! Où es-tu, maudit crétin ?»
Captant un mouvement du coin de l'œil, Caridine tourna la tête, prêt à agonir le domestique d'injures. Mais les jurons se coincèrent dans sa gorge lorsqu'un myrdraal, sortant des ombres, avança vers lui avec la grâce d'un reptile. La silhouette était humaine, y compris en ce qui concernait la taille. Mais la ressemblance s'arrêtait là. Dans ses vêtements noirs qui ne bougeaient pas alors qu'il se déplaçait, le blafard paraissait d'une pâleur cadavérique. Et ce visage sans yeux, dont le regard donnait pourtant des sueurs froides à Caridine, comme à des milliers d'humains avant lui.
« Que ?»
Le confesseur s'interrompit pour s'humidifier les lèvres, puis il reprit d'une voix moins grinçante.
« Que faites-vous ici ?»
Le ton restait trop haut perché, mais ça pouvait passer pour l'effet de la surprise. Le demi-humain eut un rictus qui étira ses lèvres exsangues.
« Là où vont les ténèbres, il est de mon devoir d'aller. »
Plus qu'une voix, on eût dit le bruissement que produit le corps d'un serpent sur un tapis de feuilles.
« Car j'aime surveiller tous ceux qui me servent de par le monde. »«
Je sers-le !»
Caridine n'alla pas plus loin, car c'était peine perdue. Non sans effort, il détourna le regard du visage blême de son interlocuteur et pivota sur lui-même, frissonnant à l'idée d'exposer son dos à un demi-humain. Dans le miroir en face de lui, tous les reflets étaient nets, à part celui du blafard. Un spectacle peu plaisant, mais de loin préférable à l'omniprésence de ses yeux qui n'existaient pas. Du coup, la voix de Caridine reprit un peu d'assurance.
« Je serre-le !»
Il s'interrompit de nouveau, mais pour une autre raison que la première fois. Au cœur de la forteresse de la lumière, les mots qu'il avait failli prononcer lui auraient valu de finir entre les mains de ses propres confesseurs. S'il les entendait, le fils de la lumière le plus ordinaire se sentirait en droit de l'abattre sur le champ. Mais Caridine était seule avec le blafard, et peut-être Charbonne s'il se tairait quelque part dans les ombres. Ne pas être en tête-à-tête avec le Myrdraal aurait rassuré l'inquisiteur, même si ça l'aurait contraint à éliminer ensuite un témoin gênant. Seul ou pas, Jakim baissa le ton.
« Je sers le grand seigneur des ténèbres, comme vous. Nous avons le même maître. »
« Si tu préfères voir les choses ainsi. »
Le Myrdraal éclata de rire, un son qui glaça les sangs de Caridine.
« Je veux quand même savoir ce que tu fais là, au lieu d'être dans la plaine d'Almoth. »
« J'ai dû obéir aux ordres du seigneur général. »
« De la fiente. Voilà ce que sont les ordres de ton chef. Tu étais chargé de trouver Randaltor et de l'éliminer. C'était une priorité. Tu connais le sens de ce mot. Pourquoi n'as-tu pas obéi ?»
Caridine inspira à fond. Le regard du blafard lui donnait l'impression qu'une lame glacée allait et venait le long de sa colonne vertébrale.
« Les choses ont changé. Je n'ai plus autant de pouvoir qu'à une époque. »
Un bruit grinçant força Caridine à se retourner. Le blafard passait une main sur le plateau de la table et des copeaux jaillissaient sous ses ongles comme il l'aurait fait sous la lame d'un rabot.
« Rien n'a changé, vermine humaine. « Tu as renié le serment prêté à la lumière, et tu dois être loyal à ta nouvelle foi. »«
Je ne comprends pas. »
osa dire l'inquisiteur, les yeux rivés sur les sillons que le Myrdraal creusait dans le bois.
« Pourquoi tuer Rand est-il soudain si important ? J'avais cru comprendre que le grand seigneur des ténèbres voulait se servir de lui. »«
Tu doutes de ma parole ? Je devrais t'arracher la langue. » Poser des questions n'entre pas dans tes prérogatives. Et tu n'as rien à comprendre. Ton rôle est d'obéir. Un jour, des chiens prendront des leçons de servilité de toi. Comprends-tu ça, misérable vermisseau ? Au pied, chien, et fais ce que te dit ton maître.
La colère parvenant à occulter la peur, Caridine porta la main à sa hanche. Et son épée n'y était pas. Elle l'attendait dans la pièce attenante, où il l'avait laissée avant d'aller rejoindre Pedron Mial. Le Myrdraal fut plus rapide qu'une vipère qui se détend comme un ressort vers sa proie. Sa main se referma sur le poignet de Caridine, étau si puissant et si dévastateur que l'inquisiteur ne put s'empêcher de crier. Mais aucun son ne sortit de sa bouche, car le blafard lui plaqua sa main libre dessus, le forçant à la refermer.
« Écoute-moi bien, humain. Tu vas retrouver ce garçon et le tuer aussitôt que possible. N'espère pas t'en tirer par la ruse, car certains de tes fils me préviendront si tu essaies de te défiler. Cela dit, à tout hasard, voici de quoi te stimuler. Si Randaltor n'est pas mort dans un mois, j'exécuterai un de tes proches, ton fils, ta fille, ta sœur ou ton oncle. Tu ne sauras pas jusqu'à ce que tu entendes le cri d'agonie de ma victime. Ensuite, si Rand survit un mois de plus, je prendrai une vie supplémentaire. Quand tu seras le dernier survivant de ta lignée, si Rand est encore de ce monde, je te conduirai au cœur du mont Shaiolgul. Ton agonie durera des années, chien. Tu saisis ce que je veux dire ?
Caridine émit un son étouffé. Prise dans un étau, sa gorge ne laissait presque plus passer d'air. Le blafard projeta sa proie au loin, l'envoyant s'écraser contre un mur. Sonné, le souffle coupé, Caridine se laissa glisser sur le sol.
« Tu as saisi, humain ?»«
Oui, et j'obéirai. »
N'entendant plus rien, Caridine lutta pour relever la tête. Il n'y avait plus personne dans la pièce. Selon la légende, les blafards enfourchaient les ténèbres comme s'il s'agissait d'une monture, et ils disparaissaient dès qu'ils obliquaient dans une direction ou une autre. Aucun mur ne les retenait. Des larmes de souffrance lui perlant aux paupières, Caridine réussit à se relever malgré son poignet devenu inutile. La porte s'ouvrit pour laisser passer un petit homme replet qui portait un panier.
« Maître, tu vas bien ?»
demanda Charbonne.
Désolé d'avoir été absent, mais je suis allé t'acheter des fruits. »
De sa main valide, Caridine fit sauter le panier des bras du domestique. Alors que des pommes ratatinées par l'hiver roulaient sur le sol, il gifla son imbécile de valet.
« Pardonne-moi, maître. »«
Va me chercher de quoi écrire, espèce d'abruti. Je dois rédiger des ordres. »« Mais lesquels ? Bon sang, lesquels ?»
Alors que Charbonne s'empressait d'obéir, Caridine regarda de nouveau les sillons sur la table et ne put s'empêcher de frissonner.